VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition spéciale du mercredi 16 janvier 2019, consacrée pour l'essentiel à l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia. La CPI a ordonné hier la libération de M. Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse, incarcéré depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, une crise qui a fait officiellement plus de 3000 morts. M. Gbagbo et Blé Goudé, qui comparaissaient pour crimes contre l'humanité, ont été acquittés de l'ensemble des charges pesant sur eux. En Côte d'Ivoire même, tout le monde s'interroge sur son retour et ses conséquences politiques, le retour de M. Gbagbo et ses conséquences politiques, alors que les partisans de l'ex-président éclatent de joie. D'Abidjan, notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne, ce sont des explosions de joie qui ont accueilli la nouvelle de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. À Yopougon, fief de l'ancien président ivoirien, ses partisans affirment que ces libérations vont contribuer à accélérer le processus de réconciliation.
C'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'avec Gbagbo en Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire va se réconcilier et c'est ça qui est le plus important. Donc nous sommes heureux que Blé Goudé et Gbagbo Laurent soit libéré pour le bien-être des Ivoiriens, pour la paix en Côte d'Ivoire.
Je suis très heureux pour la libération de mon frère et de mon père. Donc, raison pour laquelle nous sommes assis. Nous sommes en joie pour l'instant.
Dans les rues de Cocody, on se réjouit également de l'annonce faite par la CPI.
Le président Gbagbo est libéré. C'est la Côte d'Ivoire entière qui est libérée. Parce que c'est un soulagement profond. Je pense que la réconciliation se fera maintenant dans de bonnes conditions.
C'est ce qu'on souhaite tous, hein, qu'il y ait la réconciliation. Et la réconciliation ne peut pas se faire quand une partie n'est pas présente. On est très heureux. Maintenant, on va penser quand même au pays et tous mettre la main à la pâte pour que progressivement on se réconcilie et qu'on redevienne comme avant.
À la résidence de Laurent Gbagbo, plusieurs militants et cadres de son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, s'étaient rassemblés pour suivre l'audience de ce mardi. Tout ceci salue la décision rendue par la Cour pénale internationale. Simone Gbagbo.
Je m'attendais à un acquittement total parce que c'était mes vœux, c'était mes prières. Je suis persuadée que son retour va enclencher un nouveau processus dans la réconciliation.
Marie-Odette Lerougnon, présidente des femmes du FPI.
C'est un sentiment d'immense joie, d'abondante joie. Nous avons crié dans ce pays-là et nous avons dit que Gbagbo Laurent n'a rien fait, il fallait le libérer. Je crois que le temps nous donne raison et ce que nous voulions est arrivé. On a dit il a l'acquittement, mais en plus de ça, c'est accompagné de libération immédiate. Et c'est ce que nous attendions.
Mathias Kadé, c'est vrai, je suis un parent du président Laurent Gbagbo. Je suis membre du comité de contrôle du Front Populaire Ivoirien. C'est une joie indicible qui m'anime en ce moment. Il y a 6-7 ans en arrière, personne n'osait parier ainsi. Et aujourd'hui, nous voyons comme dans un rêve que le président Gbagbo est libéré.
Laurent Gbagbo avait été transféré devant la CPI en novembre 2011 et Charles Blé Goudé en mars 2014. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
À l'intérieur du pays aussi, certaines villes ont fait la fête, ralentissant la circulation. Pour les réactions à Boaké, ancien fief des forces nouvelles, l'ancienne rébellion qui avait combattu Laurent Gbagbo, nous retrouvons Siriki Baro, notre correspondant sur place.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé retrouvent la liberté après plusieurs années de détention. Si ailleurs en Côte d'Ivoire, leurs partisans ont laissé exploser leur joie, cela n'a pas été le cas à Boaké. Bien au contraire, c'est un peu comme si l'on redoutait cette nouvelle. Doumbia Soumaïla, le président de la plateforme de la société civile, estime que la décision rendue par les juges de la CPI favorisera la réconciliation entre les Ivoiriens.
En tant qu'organisation de la société civile et militant des droits de l'homme, nous respectons d'abord les institutions juridiques. Et la libération de M. Gbagbo viendra en appoint pour apporter un plus sur la question de la réconciliation.
Pour les parents des victimes de la crise post-électorale de 2011, cette décision est une injustice.
Je ne suis pas content parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça, là, ça ne peut pas envoyer la paix parce qu'ils ont toujours la haine sur leur cœur contre les Doula.
Si certains redoutent le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, pour d'autres, cela pourra apaiser les tensions et contribuer au retour définitif de la paix.
Si Laurent Gbagbo vient, c'est pour la paix, on est d'accord. Mais si c'est pour venir envoyer la haine, cette guerre encore, le tribalisme en Côte d'Ivoire, n'a pas la peine qu'on le libère. Et je demande à Blé Goudé qu'il vienne avec la paix, avec l'humilité, que son départ à ces pays lui donne beaucoup de leçons et beaucoup de sagesse.
Sylvie Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
Idriss Fall a lui contacté les avocats des partis concernés pour recueillir leurs réactions. Aussi, un politologue proche du camp Gbagbo pour faire le point. D'abord, l'avocat de l'ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, Maître Claver Ndri.
C'est une journée historique, tout simplement la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, avec cette décision d'acquittement et de remise en liberté immédiate, telle que décidée par la Chambre, nous voyons cette journée du 15 janvier 2019 comme une journée historique où la vérité l'emporte sur le mensonge. Donc, acquittement et remise en liberté immédiate. Il reste qu'il y a des procédures dont le fait usage le procureur, donc l'accusation, c'est ce qui va être fait. Donc le procureur va venir donner sa position. En ce qui concerne l'article 81, il faut qu'il fasse en fait la preuve de circonstances exceptionnelles qui puisse justifier, selon lui, la suspension de cette décision de remise en liberté immédiate. Et donc nous l'attendons sur ce point, mais nous pensons que parler de circonstances exceptionnelles, nous ne savons pas, mais nous restons mesurés, nous attendons.
Il y a un instant, dans le reportage de notre correspondant Ibrahim Tunkara, vous avez entendu Madame Simone Gbagbo réagir directement à l'acquittement de son mari. Idriss Fall a contacté son avocat, Maître Rodrigue Dadier.
En tant que l'avocat de Mme Simone Gbagbo, je suis très heureux. Le président Laurent Gbagbo a été injustement accusé par la communauté internationale d'avoir commis des crimes graves en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, après 7 ans de procès, la Cour pénale internationale reconnaît qu'il est innocent. Et c'est une grande victoire. Mme Gbagbo a fait une déclaration pour s'exprimer sur sa joie à voir son époux, le président Laurent Gbagbo, acquitté, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé. Elle estime qu'on ne peut pas faire de réconciliation sans le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, parce qu'il est le vecteur justement de cette réconciliation-là. Et donc, elle espère que les conditions seront réunies pour qu'il puisse reprendre sa place en Côte d'Ivoire et participer au processus de réconciliation. En ce qui concerne son retour effectif en Côte d'Ivoire, il faudra qu'il en discute avec son parti, avec ses avocats, et que tout cela soit coordonné. Mais naturellement, l'objectif, c'est de revenir en Côte d'Ivoire, c'est de prendre part au prochain processus électoral en accord avec son parti. Je sais que le président Laurent Gbagbo a la politique dans le fond, mais je ne vous dis pas s'il va se présenter aux élections ou pas. C'est une décision qui sera prise par le FPI et ne sera jamais trop loin de la politique, peu importe le rôle qu'il va occuper. Le seul président du FPI que nous connaissons, c'est le président Laurent Gbagbo. Cela ne va jamais changer. Et même cela s'impose à tout le monde.
Sur le plan politique, le retour de Gbagbo va à nouveau complètement changer la donne. Quelques mois après l'éclatement de la coalition au pouvoir, l'ancien parti de Gbagbo, le Front populaire ivoirien, le FPI, aujourd'hui divisé en deux branches rivales, devrait se réunir derrière son patron Jean-Roger Bion.
Les conditions sont réunies pour l'unité en vue de la reconquête du pouvoir en 2020, lors de la présidentielle, a déclaré à l'AFP le secrétaire général et numéro 2 du FPI, Assoua Adou. Henri Conan Bédié, chef du premier parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a exprimé dans un communiqué mardi soir sa joie de la libération du président Gbagbo Laurent, y voyant une opportunité qui renforce les chances de la réconciliation nationale. M. Bédié, ancien président ivoirien de 1993 à 1999, avait confié à l'AFP la semaine dernière être en contact avec M. Gbagbo pour que son parti intègre une plateforme commune d'opposition. L'unique réaction du gouvernement ivoirien est venue de son porte-parole, le ministre de la Communication Sidi Tshomoko Touré, qui a souligné qu'il fallait garder de la compassion pour les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour Joël Nguessa, une figure du clan présidentiel, tous doivent être conscients qu'après cette crise qui a fait 3000 morts, c'est plus jamais ça. Il faut qu'ils comprennent cela. M. Nguessa a estimé que M. Gbagbo pourrait revenir prochainement, soulignant que la loi fondamentale ivoirienne interdit l'exil et rappelant que le président Alassane Ouattara avait fait libérer en août 8000 personnes dans le cadre d'une amnistie sur la crise post-électorale.
Merci Jean-Roger. Enfin, pour replacer dans son contexte l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI, Idriss Fall a joint le professeur Albert Bourgi, proche de l'ancien président ivoirien.
Ma réaction, c'est d'abord de me réjouir, car en fait, il n'y avait aucun acte d'accusation qui pouvait tenir la route concernant Laurent Gbagbo. Simplement, c'était une façon de l'enfermer, de le retirer purement et simplement du jeu politique pour laisser place nette à, bien sûr, un candidat de la France qui est Alassane Ouattara. J'ai envie de dire, ce n'est que justice, que les choses se soient rétablies par le biais notamment de l'acquittement de Laurent Gbagbo.
Après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo acquittés, que pensez-vous de la CPI alors?
Crédit total. La Cour pénale internationale est venue en quelque sorte pour les grandes puissances, en particulier les anciennes puissances coloniales, notamment la France, est venue se substituer aux anciennes interventions militaires françaises. À l'époque, la France, est-ce qu'elle voulait pas quelqu'un, ou est-ce qu'elle voulait se débarrasser de quelqu'un, elle a envoyé des militaires, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu ailleurs, envoyer des militaires pour déstabiliser le pouvoir en place, pour y mettre quelqu'un qui était un affidé de la politique française. Et ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été filtré sous le regard horrible de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui était à la sortie, qui a été bousculé. Laurent Gbagbo, qu'on a retiré de ses appartements, lui et son épouse. C'est une pratique, franchement, qui ne peut être imaginée un seul instant, et pourtant elle a eu lieu dans un pays, n'oublions jamais, où les intérêts français sont colossaux. Car Laurent Gbagbo considérait, aux yeux de certains, un danger précisément pour la protection des intérêts français.
Le professeur Albert Bourgi, proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Voilà, c'est tout pour ce mini spécial sur l'acquittement par la CPI de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Merci à nos correspondants à Abidjan et à Boaké, Georges Ibrahim Tunkara et Siri Kibaro, ainsi qu'à mes confrères Idriss Fall et Jean-Roger Bion.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le reste de l'actualité au Kenya. Au moins 15 personnes ont été tuées dans l'attaque en cours perpétrée par un commando d'islamistes somaliens à Nairobi, ont indiqué mercredi des sources policières, alors que de nouveaux tirs étaient entendus au deuxième jour du siège par la police du complexe hôtelier pris pour cible par les assaillants. Nous pensons que deux ou trois assaillants se trouvent encore à des endroits spécifiques, a déclaré à l'AFP mercredi matin un policier gradé se trouvant sur les lieux sous couvert de l'anonymat. Cette source a établi le bilan provisoire de l'attaque à au moins 15 morts, dont des étrangers. Un bilan confirmé par une seconde source policière sur les lieux, qui rappelait toutefois que les forces de sécurité n'avaient pas encore pu accéder à certaines zones du complexe regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux. Cette deuxième source a indiqué que les assaillants s'étaient retranchés à un étage élevé d'un des bâtiments du complexe. Elle craignait que des personnes en nombre non spécifié ne se trouvent encore à cet étage. Au Zimbabwe, au moins 3 personnes ont été tuées dans les violentes manifestations qui secouent depuis lundi le Zimbabwe, après le doublement du prix des carburants. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Selon un bilan officiel, les troubles ont fait 3 morts. Un policier a été lapidé à mort à Bulawayo. Une personne est morte à Chitugwiza dans le sud et une autre à Kadoma dans le centre. Le principal parti de l'opposition a évoqué le même nombre de victimes, mais avec des localisations différentes. Selon le porte-parole du Mouvement pour un changement démocratique MDC, Jacob Mafume, 2 personnes ont été tuées à Chitugwiza et une autre à Kadoma. Il a aussi indiqué sans donner de détails que plusieurs personnes ont été blessées. Amnesty International, de son côté, a avancé un bilan possible de 8 morts. Mardi, la situation est restée extrêmement tendue au deuxième jour d'une grève générale à l'initiative de la Confédération syndicale du pays. La capitale ressemblait à une ville morte où la police patrouillait des rues désertes. À Bulawayo, fief de l'opposition, elle a utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants.
En Grande-Bretagne, les députés ont massivement rejeté hier l'accord de Brexit négocié par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles. John Lydon.
432 voix contre et 202 voix pour. La Chambre des communes a refusé l'accord des divorces malgré une ultime mise en garde de Theresa May. Nous avons le devoir de respecter le résultat du référendum du 23 juin 2016, a-t-elle déclaré dans la Chambre des communes, pleine à craquer, peu avant le début du vote. Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a dénoncé un mauvais accord et réclamé des législatives anticipées. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, estime pour sa part que le rejet par le Parlement britannique de l'accord sur le Brexit augmente le risque d'un divorce sans accord. Il appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé, a déclaré le président de l'exécutif européen juste après le vote britannique. Le Royaume-Uni doit en principe quitter l'Union européenne le 29 mars. Un retrait ordonné prévu par l'accord aurait permis à Londres et Bruxelles de commencer à discuter de leurs futures relations commerciales.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a commencé à examiner hier le recours de Martin Fayulu qui demande une invalidation des résultats de l'élection présidentielle proclamant Félix Tshisekedi vainqueur. Idriss Fall a recueilli la réaction du docteur Denis Kibwanana Peya, représentant de l'UDPS en Afrique du Sud.
C'est le peuple congolais qui a voté. Et c'est le peuple congolais qui ne se plaint pas. C'est dans 28 provinces, vous ne voyez pas de protestation. Vous apprécierez notre attitude comme Congolais dans une démarche ou une dictature. Depuis l'indépendance à nos jours, c'est la première fois pour l'Afrique de voir une dictature qui fait une passation pacifique du pouvoir à une opposition qui a 37 ans d'années. Nous sommes les vainqueurs. Et que la plainte de la Mouka de Fayulu, c'est en soi une distraction. Toute la lutte de la Mouka, c'était la lutte contre la machine à voter. Et deux, pas de projet de gouvernement. De plus, pas de témoins électoraux, pas de procès-verbaux. Et lui-même, Fayulu, s'est enregistré sur toute l'étendue de la RDC au nom de la Mouka, avec Mbemba Tumbi. Mais lorsqu'il va à la Cour constitutionnelle, le samedi, vous l'avez suivi, il se présente au nom d'une dynamique qui n'a pas été reconnue par la CENI. Il s'appuie sur l'Église catholique. La CENCO, c'est une simple organisation de l'Église catholique, membre de la société civile.
La CENCO dit avoir déployé quelque chose comme 40 000 observateurs.
C'est encore une erreur, puisqu'au niveau, il y a une contradiction là-dessus avec les données de la CENCO. Et de la CENI. La CENI parle de 17 000 sur toutes les terres. La CENCO parle de 40, 12 000 c'est 40, ils ont été enregistrés où? C'est que nous disons à Fayulu, à Mbemba et à Katumbi, de ces terres, ils n'ont pas de leçon à donner à la démocratie au peuple congolais. Ils ont servi Mobutu, ils ont servi Kabila, ils ont pillé le pays, ils ont vendu l'Iranien. Ils se sont enrichis. Maintenant que le peuple congolais a voté et avec fierté un opposant, l'Afrique australe a dit qu'il faut un gouvernement, il faut faire le récomptage. Mais nous ne nous opposons pas. Le récomptage signifie que quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle de la RDC. Or, à la date d'aujourd'hui, Idriss appelle la Cour constitutionnelle. Fayulu n'a introduit aucun document, aucune évidence, pas de preuves, pas de procès-verbaux. Et la CENCO elle-même ne lui donne pas de documents. Donc il faut que nous allions à la prestation de serment de Félix Tshisekedi le 22 janvier 2019.
C'était le docteur Denis Kimwanana Peya, représentant de l'UDPS en Afrique du Sud.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est donc de retour dans son pays. Il a aussitôt reçu le serment de son nouveau gouvernement mardi matin à Libreville. Mais l'événement n'a pas été retransmis en direct par les chaînes publiques, ce qui alimente davantage les débats sur l'état de santé du président au sein de l'opinion publique. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
Affaibli et se relevant de plusieurs semaines de maladie, Ali Bongo Ondimba retrouve son gouvernement et ses institutions debout dans l'une des pièces retenues pour abriter l'audience solennelle de prestation de serment du nouveau cabinet Julien Kerbekale. Image interdite aux paparazzi, sait-on jamais, et à plusieurs médias nationaux et internationaux, par rassurant pour une certaine opinion déjà dubitative sur le retour du président à Libreville, car comme de tradition, l'événement n'a pas été retransmis en direct par les chaînes publiques.
Je ne l'ai pas vu.
vraiment.
Vraiment, pas du tout. On ne sait pas s'il est là ou pas.
Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien à dire.
Moi, personnellement, j'ai cru entendre qu'il rentrait à 1h du matin. Et finalement, jusque-là, je n'ai pas de nouvelles, quoi. Et depuis son absence, on est là, on attend son retour.
D'autres citoyens semblent bien moins intéressés par la nouvelle du jour qui s'invite dans tous les milieux de Libreville. C'est le cas de Prisca, technicien de surface, dans un cabinet d'études d'avocat.
Moi, je ne savais pas qu'il est là. En tout cas, ça ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ce n'est pas mon problème.
Le retour d'Ali Bongo Ondimba est considéré par Anna Berki, journaliste, comme une nécessité pour restaurer l'autorité de l'État au Gabon.
Ça augure d'une certaine stabilité parce que le pays en a bien besoin. D'ailleurs, économiquement, je crois que pour nos investisseurs, il est important d'avoir dans une barque un commandant qui sache donner le cap et continuer, bien sûr, à conduire donc celle-ci à bon port.
Le rituel de prestation de serment du nouveau gouvernement gabonais n'a plus été suivi du tout premier conseil des ministres de l'année comme prévu. Le rendez-vous convoqué par le numéro 1 gabonais est repoussé à une date ultérieure selon les sources proches du dossier. Libreville, Ismaël Obianzé pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, les policiers sont en arrêt de travail de 72 heures depuis lundi à l'appel de leur principal syndicat, l'UNAPOL. Ils entendent protester contre le lynchage de deux policiers dans le village de Nafona, dans l'ouest du pays. Conséquence, les commissariats de police sont fermés aux usagers. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Portail fermé, policiers en civil devisant devant les commissariats, ce qui était donné de voir depuis lundi devant les hôtels de police, comme ce fut le cas du commissariat de l'arrondissement de Nongomassom, où une usagère députée reprit ses chemins.
Je voulais égaliser la photocopie de mon passeport pour un document. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, le monsieur m'a salué et il m'a dit « Madame, revenez demain, il n'y a pas de travail ».
Un tour au commissariat central de la ville rappelle les mêmes scènes.
Je suis venu à la commissariat pour faire l'égalisation des papiers. Mais je suis arrivé à trouver que c'est fermé. Mais je ne sais pas pourquoi on est c'est fermé.
Devant le commissariat central, le gérant du parking, habituellement très occupé à garer des engins des usagers, ne décollerait pas.
Moi, particulièrement, ce que je veux demander, il faut que l'État vraiment s'impose. Sinon, nous, la population aujourd'hui, si on dit on veut vivre de la démocratie, et si c'est cette démocratie, nous, on compte vivre et laisser pour nos enfants, si les choses doivent se passer comme ça, l'avenir est très sombre.
Ce mouvement d'humeur est dû à l'assassinat de deux policiers, victimes d'une vindicte populaire dans le village de Nafona, dans la région des Cascades, à l'ouest du pays. Seulement, impossible d'arracher un mot officiel de ces policiers qui arboraient la mine des mauvais jours. Au commissariat central, ils étaient peu bavards.
Nos services sont fermés.
Le commissaire central n'a pas souhaité s'exprimer. Plus tard, c'est le syndicat de la police UNAPOL qui a pris la parole. Il est important de respecter le corps de la police et la vie des policiers, a estimé le secrétaire général de l'organisation, Armiao Zongo.
Quel que soit le motif allégué par la population, aucun motif ne peut justifier un tel lynchage. Des hommes porteurs des tenues de la République. Ils sont à une mission.
Un point de vue partagé par son secrétaire général adjoint, Rachid Palinfo.
Les événements qui viennent de se produire à Nafona sont inadmissibles, inacceptables et intolérables dans un état de droit. Dans un contexte sécuritaire aussi délétère qu'inquiétant, la population doit être un appui pour les forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme et non un problème de plus à gérer.
L'UNAPOL trouve que les policiers sont abandonnés et a dénoncé le silence de la hiérarchie et celui du gouvernement en appelant à cet arrêt de travail. Cette crise est la conséquence de l'assassinat de deux policiers par la foule à Nafona dans l'ouest du pays. Les circonstances ne sont pas encore claires et beaucoup se demandent si la mort d'une villageoise par balle le même jour n'est pas une bavure policière qui aurait déclenché la colère populaire. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les députés britanniques ont donc massivement rejeté hier soir l'accord de Brexit négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles. Ce texte n'a satisfait ni les europhiles, partisans de liens plus étroits avec l'Union européenne, ni les eurosceptiques, désireux d'une rupture plus nette. Quelles seront les conséquences de ce vote? Eh bien, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste et directrice adjointe de l'IRIS, Sylvie Matelli.
C'est un rebondissement de plus et qui nous met encore plus dans l'incertitude quant à ce qui va se passer. Il y a quelques mois, on aurait pu penser que l'accord rejeté, ça voulait dire un Brexit dur, c'est-à-dire un Brexit sans accord. C'est plus du tout le cas depuis la décision de la Cour européenne de justice qui donne la possibilité à Theresa May, et dès la semaine dernière, il y a des députés qui appelaient Theresa May à saisir cette possibilité de stopper le Brexit. Alors, si elle le fait, elle le stoppera provisoirement. Il faut qu'elle se décide avant le 29 mars. Elle va demander un délai à l'Union européenne avant de sortir de l'Europe. Bien évidemment, l'incertitude par rapport à ça, c'est la période que pourrait durer ce délai avant la sortie. Et puis l'autre incertitude, c'est est-ce que les pays européens et la Commission européenne vont accepter de renégocier, et est-ce qu'il y aura quelque chose à renégocier? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a plus de Brexit, en fait.
Entre-temps, l'opposition travailliste a introduit une motion de censure.
Oui, tout à fait, pour destituer Theresa May. Il faut se souvenir que les conservateurs avaient déjà fait la même chose au mois de décembre, et que il y avait, sur les 300 conservateurs, il y en avait 100 qui s'étaient prononcés pour la motion de censure, et puis 200 qui étaient restés fidèles à Theresa May. Dans le cas du Parti travailliste, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque il y a peu de chances qu'ils arrivent à véritablement gêner la Première ministre et l'obliger à partir.
Quelles sont les conséquences d'une sortie sans accord et surtout les relations entre Londres et Bruxelles?
On a beaucoup écrit, on a beaucoup entendu de choses sur les conséquences d'une sortie sans accord. Simplement, en fait, on n'en sait rien parce que ça ne s'est jamais produit. L'avantage de l'accord, c'est quelque part, ça donnait du temps. C'est-à-dire au 29 mars avec l'accord, tout restait comme avant. Et puis, petit à petit, dossier par dossier, on négociait les conditions pratiques de la sortie, et au fur et à mesure que les négociations dossier par dossier étaient abouties, on sortait. Et donc finalement, pendant le Royaume-Uni, on a mis des mois à sortir, au cas par cas, au fur et à mesure qu'un accord de bon fonctionnement, de bonnes relations était trouvé. Dans le cas d'une sortie sans accord, ça veut dire que le 30 mars au matin, les Britanniques se réveillent, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais alors rien n'est dit. Et on ne sait absolument rien sur la façon dont vont se régler un certain nombre de choses. C'est-à-dire, quelle va être la politique commerciale du Royaume-Uni? Au 30 mars, ils ne sont plus dans l'UE, donc ils ne bénéficient plus de la politique commerciale de l'Union européenne. Quelles sont leurs relations avec les pays de l'Union européenne, déjà, et puis avec le reste du monde? Parce qu'il faut savoir que tant qu'ils sont dans l'UE, c'est-à-dire jusqu'au 29 mars, ils n'ont pas le droit de négocier des accords d'échange ou de libre-échange avec d'autres pays. Comment ça se passe en douane? Est-ce qu'il y a des papiers à remplir ou pas? Est-ce qu'il n'y a finalement aucun mode d'emploi qui existe? Et c'est cette absence de mode d'emploi qui va rendre très compliqué l'ensemble du quotidien des Britanniques et probablement un petit peu des Européens également, parce qu'on ne sait pas du tout comment vont se gérer des relations qui jusque-là étaient complètement fluides parce que dans l'Union européenne.
Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Laurent Gbagbo aux portes de la liberté. Après 7 années de détention provisoire, Laurent Gbagbo a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Que veut dire cette décision de la CPI? Quelles peuvent être les conséquences sur l'échiquier politique ivoirien? Cet acquittement est-il un pas vers le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.